Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h passées de 13 minutes, club de la presse numérique, notre nouveau rendez-vous, comme chaque dimanche. On parle ce soir d'écologie et de numérique, et nous sommes pour en débattre avec Elliot Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Amel Guiton de Libération qui est resté avec nous ce soir.
Je vais m'installer une quechua dans le couloir.
Voilà. Les outils numériques, sans transition, les outils numériques ont permis... Une quechua, c'est particulièrement écolo, c'est ça que vous voulez dire?
Je ne sais pas.
Il faut citer deux autres marques, non, pour que ce soit légal.
Ouais. Voilà. Ah mince,
allez-y.
Ça ne me vient pas là.
Vieux campeur.
Ouais.
Et la Fuma.
Ah bah voilà.
Bien,
on
est bien. Les outils numériques ont permis d'une part de faire de nombreuses économies d'énergie pour la sauvegarde de la planète, qu'on pense par exemple aux écrans qui réduisent les besoins en papier, la poste qui distribue moins de lettres ou encore aux voitures électriques qui roulent sans essence. Pour autant, la multiplication de ces objets pose de nouveaux problèmes, de nouveaux débats. Les données qui circulent en masse sur Internet sont stockées dans des centres, des data centers très énergivores, c'est vrai aussi du blockchain, de la blockchain et en particulier du Bitcoin. Les appareils sont difficiles à recycler et sont sujets à l'obsolescence. Et ce soir, donc, on s'intéresse au lien entre écologie et numérique. Pour lancer ce débat, Elliot Lepers.
Oui, ben, on a des usages numériques qui évoluent, et notamment, on peut parler du streaming ou des accès aux nuages, notamment donc ce fameux système de cloud qui font qu'on est connecté en fait en permanence à des serveurs. Et donc ça, ces pratiques, elles sont de plus en plus exponentielles. L'usage, c'est 63%, je crois, du trafic mondial qui est utilisé pour le streaming vidéo. Et le streaming vidéo, ça contribue le plus à une consommation évidemment d'énergie, d'électricité et donc à une production de gaz à effet de serre. Il y a des mouvements en cours chez les géants du web pour s'engager à acheter directement de l'énergie propre auprès de fournisseurs d'électricité propre. Donc ça a été fait, c'est des engagements qui ont été pris par Google, par Facebook, par Apple notamment. Mais il y a d'autres acteurs comme Netflix dont vous parliez juste avant qui utilisent encore des énergies fossiles pour fournir ces services-là.
Donc, alors quels sont concrètement les problèmes nouveaux qui émergent de cette utilisation de données et de transport de ces films ou autres que nous utilisons chaque jour?
Je ne sais pas si le problème est nouveau. Il se trouve que voilà, on utilise à la fois des machines et des données qui font quand on utilise Internet en fait, c'est qu'on utilise son ordinateur effectivement qui consomme de l'électricité, mais derrière il y a tout un tas de d'autres systèmes qu'on ne voit pas, qui sont actionnés par notre action. Le moindre clic sur un lien actionne des serveurs, parfois à l'autre bout du monde.
Et ces serveurs, c'est très nombreux. On sait que pour Google, Amazon ou Facebook, pour chacun de ces trois sociétés, c'est plusieurs millions de serveurs connectés entre eux.
Notamment pour avoir accès à un Internet rapide. C'est-à-dire, plus on a Internet rapide, plus ça veut dire qu'il faut que l'information soit dupliquée partout dans le monde pour qu'elle soit le plus proche de soi, pour qu'elle soit le plus rapidement accessible. Donc, simplement que les usages évoluent, on est de plus en plus d'êtres humains à être connectés, on consomme de plus en plus de données parce que les flux sont de plus en plus rapides, et parce que les usages et le temps passé sur les écrans est de plus en plus important. Et donc, on arrive à un moment où on a une sorte de goulot d'étranglement parce qu'effectivement, la consommation globale au niveau mondial d'électricité pour Internet, ça équivaut à certains des plus grands pays du monde en termes de consommation.
Alors, le problème de ces data, mais il y a aussi le problème du refroidissement des serveurs. Autre question importante.
Et d'ailleurs, il y a des initiatives intéressantes parce que effectivement, un serveur, c'est donc des centaines ou des milliers de petits ordinateurs qui sont connectés à Internet et qui permettent de stocker du contenu et de le délivrer à tous les utilisateurs et utilisatrices. Et donc, il y a des initiatives pour placer ces data centers dans des endroits qui sont froids et donc pour réduire la nécessité en refroidissement électrique.
Donc en Islande, au Canada,
voilà, Facebook s'est installé en Suède,
en Groenland,
par exemple. Il y a aussi une initiative intéressante qui est de réutiliser la chaleur produite par ces machines. Et donc, c'est le cas en France. Je crois qu'il y a trois sites aujourd'hui, qui notamment à Marne-la-Vallée et Aubervilliers, qui utilisent la chaleur et qui l'introduisent dans le réseau de chaleur urbain. Et puis, il y a la piscine de la Butte aux Cailles, par exemple, à Paris, qui est chauffée intégralement par un data center.
Donc, on envoie un email, on chauffe la piscine de la Butte aux Cailles.
C'est ça.
Amel Guiton.
Il n'y a pas que le problème des données, hein, ceci étant. Il y a pas très longtemps, un rapport de l'Institut du développement durable et des relations internationales en commun avec le WWF qui expliquait que le premier impact écologique de la technologie, c'est plutôt les terminaux en fait, c'est l'extraction de métaux, le fait qu'ils ne sont pas tous recyclables. Je crois qu'il faut, pour fabriquer un smartphone, il faut 60 métaux différents, il faut 32 kilos de matières premières. lumière pour fabriquer une puce électronique de 2 grammes. Donc on voit que là, de se poser la question des data centers ou de l'impact de l'empreinte écologique du Bitcoin, il faudrait probablement commencer par se poser la question de l'impact des terminaux eux-mêmes et du fait que, ils sont assez peu réemployés, assez peu recyclés. Je crois que dans le même rapport, il y a seulement 16% des téléphones portables qui sont collectés à des fins soit de réemploi, soit de recyclage. Donc on voit bien
donc, que ça veut dire qu'il faut pas
c'est pas que les données, c'est aussi les objets eux-mêmes.
Ça veut pas, donc il faut pas seulement moins les utiliser, il faut plus les utiliser du tout, il faut plus de smartphones. Zoé Sfez.
Bah effectivement, alors question très très rhétorique parce que je pense que vous allez me répondre oui, mais feu le Conseil national numérique avait fait un livre blanc l'année dernière.
Il était recréé depuis, il existe toujours le Conseil.
Feu, mais en l'occurrence celui-ci n'est plus. Et parmi, alors il y avait toute une foule de préconisations pour que, je crois, transition numérique et écologique se rejoignent dans un même mouvement. Il y avait la question par rapport à ce que vous disiez, Amaël, d'appliquer une TVA réduite pour les gens qui recyclent, parce que vous avez raison, il y a très peu d'acteurs qui aujourd'hui recyclent ces matériaux. Comment est-ce qu'on peut expliquer, on va dire, un tel trou, même économique, parce qu'il y a des choses à faire quand même.
C'est effectivement, je pense qu'on manque à la fois de politiques incitatives et de politiques punitives. Enfin, il peut y avoir débat là-dessus, mais en tout état de cause, il manque aussi d'un influx de la part des politiques publiques sur cette question-là, comme sur d'autres. Mais alors que oui, effectivement, il y aurait des choses à faire. Ouais.
Et peut-être de pédagogie aussi, parce que tout simplement, moi je pense que je l'ai appris assez tard, quand vous ne triez pas vos mails, que vous ne les supprimez pas, que vous avez 3000, 4000 mails sur Gmail que vous n'avez pas ouverts depuis des années.
Et c'est quelque chose qui arrive chez vous, Zoé Sfez.
Non mais voilà, effectivement, plus vous gardez de mails, plus il y a des serveurs qui continuent à tourner. Pour rien, on a l'impression qu'il y a quand même aussi, évidemment, mais c'est toujours le cas en matière de numérique, des vraies lacunes en termes de pédagogie.
Elliot Lepers.
De pédagogie, oui. Après, il y a des campagnes. On se souvient qu'il y avait un grand opérateur de téléphonie il y a quelques mois qui avait lancé une grande campagne d'affichage pour effectivement inciter à supprimer ces mails stockés. En fait, il y a l'enjeu du stockage, donc la quantité de données qu'on stocke. Et effectivement, aujourd'hui, elle est croissante. Et sauf comme on ne supprime pas ces données et comme on en crée systématiquement de plus en plus, on a besoin de plus en plus de place pour les stocker. Donc ça, c'est un problème qui va continuer. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on miniaturise le stockage? Comment est-ce qu'on arrive à mieux compresser les données pour effectivement qu'elles prennent moins de place? Qu'elles nécessitent moins de surface parce qu'elles sont écrites sur des surfaces physiques. Et puis après, il y a combien est-ce qu'on en consomme. Donc il y a ces deux éléments-là. Et ces deux éléments-là sont croissants. Donc après.
Sont croissants et aussi, parce que c'est là, on parle d'un problème national avec ce qu'on pourrait faire, mais c'est un problème global avec aujourd'hui sur 8 milliards et quelques de citoyens, déjà plus de la moitié qui sont connectés et probablement 6 ou 7 milliards prochainement qui seront connectés. C'est-à-dire donc c'est un problème qui n'est qu'au début.
C'est ça qui est vertigineux. C'est qu'effectivement, on a un enjeu qui est massif aujourd'hui, qui est presque pas adressé, alors qu'on a la majorité de la population mondiale qui n'est pas encore connectée, donc qui n'est pas encore entrée dans le calcul.
Alors l'autre idée, c'est de mettre les serveurs sous l'eau. Paris que ça marche. Parce que du coup, ils se refroidissent automatiquement, c'est ça que vous voulez dire.
Ceci dit, je pense que c'est effectivement un peu la même logique que quand Facebook va installer ses serveurs près du cercle polaire. Effectivement, oui, la question du refroidissement. Après, pour le coup, je ne sais pas s'il y a eu il y a déjà des initiatives vraiment qui commencent à se développer de ce côté-là.
Alors, se pose aussi la question des voitures électriques qui, certes, ne consomment plus d'essence, mais il faut créer des batteries qui sont extrêmement, elles aussi, difficiles à recycler, par exemple.
Difficile à recycler, qui elle-même nécessite de l'énergie pour être produite. Hein. C'est la fameuse histoire des éoliennes qui, en fait, théoriquement, selon certaines études, consommeraient plus d'énergie fossile à produire qu'elles ne produiront d'énergie renouvelable tout au long de leur vie. cette problématique-là, évidemment, on y fait face. Il y a la question diplomatique aussi des métaux rares qui sont exploités dans des pays en guerre et donc qui donnent lieu à de l'esclavage, à des pratiques de torture. Et ça, c'est toutes les entreprises du numérique aujourd'hui.
Et puis, comme toutes les autres, sont finies. Enfin, il y en a une quantité terminée. Donc, qui va finir.
Voilà,
donc,
voilà. Il y a aussi l'enjeu du silicium pour les capteurs solaires également. Donc, on est au balbutiement en fait de la recherche sur à la fois sur la question hardware qu'on expliquait plus tôt. Donc, hardware, ce qui est dur, solide, c'est-à-dire ce qui est tangible,
les ordinateurs, les smartphones. Ouais.
Effectivement, ces matériaux-là, comment est-ce qu'on
avec l'idée du Fairphone, par exemple, efficient. Ce téléphone en kit qu'on peut remplacer pièce par pièce. Les hypothèses sont en fait dans cette direction-là.
Mais c'est la question effectivement de la réparabilité, mais de la réparabilité, y compris du réemploi. Alors là, pour le coup, moi, je suis beaucoup utilisatrice de logiciels libres. Bon, il se trouve que le logiciel libre permet, par exemple, de donner, d'offrir une durée de vie plus longue à un ordinateur, parce que c'est moins gourmand en ressources, ce qui veut dire que, bah, du coup, on peut l'utiliser quand même pendant plus de d'années que ce qui était prévu.
Mais face à l'ampleur du problème, on a l'impression que tout ça, c'est un peu des petites choses, des petits pas, et qu'on risque pas de régler le problème avec ce type de proposition.
Bah, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement assez récent qu'on commence à s'intéresser à tout ça, enfin que la question de l'empreinte écologique du numérique commence à se poser avec acuité. C'était bon, il y a 5-6 ans, c'était pas forcément des choses qui étaient très très grand public à l'époque. Il y a des gens qui ont pris la question à bras le corps assez tôt. Moi, je me souviens d'avoir croisé notamment un hébergeur néerlandais qui s'appelle Greenhost, qui cherche
bien son nom. Ouais.
Oui, mais par ailleurs, parce que ils savent qu'il y a certains modes de stockage qui sont effectivement moins gourmands, qu'il y a des technologies qui permettent d'avoir une empreinte écologique beaucoup plus limitée. Et ils sont assez conscients que aujourd'hui, c'est probablement d'ailleurs un plus produit et un moyen de se brander, comme on dit.
Et l'île de Perse, ça veut dire qu'il faut aller plus vite. Vous avez lancé il y a quelque temps une application qui permettait de devenir écolo en 90 jours. D'ailleurs, pourquoi pas 90 minutes. Il faut accélérer tout ça.
Oui, il faut accélérer. Il y a deux enjeux. Il y a la dynamique individuelle, c'est-à-dire comprendre que nos pratiques, que nos usages, que nos modes de consommation ont une influence sur les enjeux mondiaux. Et donc, effectivement, l'application 90 jours, elle vise à trouver qu'est-ce que dans son comportement on peut faire pour réduire son impact. Par exemple, un truc basique, sans parler de high-tech, mais un appareil qui est branché, un appareil en veille, il continue de consommer. Donc, sur un temps d'usage, même une télévision qu'on va utiliser 1 heure, 2 heures, peut-être 4 heures par jour, c'est-à-dire que le reste du temps, il reste branché et il continue de consommer 365 jours.
Comme le chargeur qui, même s'il ne charge pas, il consomme parce qu'il est branché.
Donc, il y a des choses effectivement qu'on peut faire à un niveau individuel. Après, ça ne suffit pas. Le niveau individuel, il permet de créer un mouvement et il permet surtout de montrer qu'il y a un enjeu politique, il y a un enjeu économique. Et là, effectivement, les individus ne sont pas l'ensemble de la solution, loin de là, quoi.
Il faut surtout d'ailleurs que les grands acteurs du numérique eux-mêmes prennent véritablement conscience de ça. Bon, ceci étant, je pense que si effectivement un acteur comme Facebook va s'installer près du cercle polaire, c'est qu'il doit aussi y trouver son intérêt à diminuer son empreinte écologique de cette manière-là.
C'est aussi des coûts moins élevés.
Absolument, oui. Ouais.
Après, il y a une autre approche aussi qui est de voir que, par exemple, sur la question des hypermarchés, eh bien, imaginez individuellement des familles qui, tous les dimanches, prennent leur voiture pour se rendre dans un hypermarché, chargent le coffre et puis retournent chez eux. Eh bien, on peut imaginer que ça, en optimisant la commande en ligne et puis la livraison, en optimisant l'itinéraire d'un seul camion qui livrerait plusieurs familles ou bien potentiellement de livreurs à vélo qui seraient donc plus équipés, eh bien, on peut imaginer que le numérique permet de diminuer l'impact énergétique et l'impact carbone parce que permet de nouvelles pratiques. Le numérique permet aussi, Internet permet de synchroniser des voitures avec Blablacar, avec le covoiturage, et donc permet effectivement d'avoir une influence positive sur la question des émissions carbone.
Mais pour l'instant, on manque d'études sur les plus, les moins que ça peut engendrer, générer de part et d'autre finalement.
On manque d'études, c'est d'ailleurs souvent des études qui sont compliquées à déterminer, qui sont lacunaires parce qu'elles ont des influences sur différents pays dans le monde, parce que voilà, quand on appuie sur un bouton sur son ordinateur, voilà, ça, en fonction de son matériel individuellement, en fonction du niveau de connexion dont on dispose, eh bien, les résultats ne sont pas les mêmes.
Un petit mot pour terminer, Amal Guiton, le Bitcoin, alors là, c'est terrible.
Bah oui, parce que alors, c'est beaucoup l'année dernière, moi, que j'avais vu passer des gros titres, effectivement absolument effarants, du type en gros, une transaction en Bitcoin consomme autant d'énergie que votre foyer en une semaine, ça c'était Motherboard. Mais là, on a effectivement un bon exemple de la manière dont une technologie très innovante, parce que honnêtement, sur le papier, le fonctionnement de Bitcoin, c'est absolument fascinant, mais dont ça produit des effets dans le réel que personne n'avait forcément envisagé. C'est-à-dire que, effectivement, les transactions sont gourmandes parce qu'elles sont validées par l'ensemble du réseau. Et puis, il y a toute la question de la production même de la monnaie, ce qu'on appelle le minage, parce qu'aujourd'hui, ça n'est, au tout début du réseau, c'était encore à la portée de vous et moi, de faire tourner son ordinateur pour produire des Bitcoins. Ça fait quand même très longtemps que tout ça est très 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 éloigné. Et aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle des fermes de minage, et donc c'est des ordinateurs qui tournent sans arrêt pour justement produire du Bitcoin. Et ça, évidemment, c'est extrêmement énergivore.
Le mot de la fin, Eliott Peirce.
Bah, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Je pense qu'effectivement, non, c'est plutôt accablant le constat qu'on peut dresser. Donc, je pense que voilà, on est
on
à un moment.
On était très optimiste ce soir, il faut bien le dire.
Tout à fait. On est à un moment où, effectivement, de toute manière, vu l'état de nos ressources et de la.
Et de la planète.
Et de l'enjeu climatique avec la COP24 qui arrive et l'absence d'engagement, notamment des États-Unis, d'où viennent la plupart de ces services qu'on a mentionnés aujourd'hui, eh bien, tout reste à inventer pour avoir un Internet qui soit potentiellement neutre en carbone.
Tout reste à inventer. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à Amel Guiton de Libération, Eliott Peirce, entrepreneur, fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG. Merci à vous, Zoé Sfès, d'avoir
Merci
été
Frédéric.
Tout au long de ce Soft Power. Ce soir, vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça consommant de l'énergie. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne. Bonne fin de week-end.